Bonjour tout le monde et bienvenue à... Nous débutons la semaine. Je le dis toujours, je suis bien contente, moi, de partir la semaine du bon pied avec mon équipe. L'équipe est au complet ce matin.
Ben oui.
Serge?
Oui.
Bonjour, ça va
bonjour.
Bien?
Bonjour. Ah, si ça va.
Jean-Charles, vous êtes bien?
Oui, ça va bien.
Et merci. Roger?
Ah, toujours bien.
Et oui. Diane au micro?
Oui.
De quoi vous allez nous parler? Je vous laisse aller en rafale.
Moi?
Alors, en rafale.
Ben moi, je vais vous parler où acheter vos appareils électroniques. Dans la revue Protégez-vous, ils ont fait des enquêtes et c'est merveilleux de savoir où on peut acheter ça. Et pour le moins cher possible.
C'est pas
Amazon? Et avec un service extraordinaire et une livraison des plus rapides.
Ah, c'est pas Amazon.
On va tout savoir ça.
Jean-Charles?
Moi, je vous présente deux textes. Un premier d'Isabelle Paris. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un texte, une série de trois, sur agir sur le climat.
Oui.
Et je vous rappelle le premier texte. Pour le climat, seriez-vous prêt à sacrifier vos voyages en avion?
OK. Et Roger?
Un voyage à Paris élimine les bénéfices carbone pour une personne végétarienne pour un an. Malgré ce résultat-là, il y a personne... plusieurs ne veulent pas se défaire de... sacrifier leur voyage. Et dans le même texte, je vous parlais d'un autre grand producteur de GES, c'était l'automobile. Et là aussi, c'est difficile de changer les habitudes parce que, comme le mentionnait Catherine Potvin, experte en réchauffement climatique, tuer la voiture, c'est tuer la liberté, à l'indépendance, et c'est presque sacré. On pourrait peut-être en dire autant pour les voyages.
Mm. Ah oui, bien sûr.
Et Roger?
Bon, une Québécoise dans les coulisses du Vatican et elle n'a pas été nommée cardinale, non. Mm. Autre sujet, il y a de bonnes nouvelles pour la planète Terre dans notre lutte contre les changements climatiques. 2 points de suspension, mais est-ce que ces bonnes nouvelles seront suffisantes? 3 ou 4 points d'interrogation.
Moi, je commence ma tournée du Québec par la région de Lanaudière cette semaine. Je vais vous parler de fromage et... Je vais vous demander, avez-vous voté du bon bord? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, voter du bon bord?
C'est indiscret.
Au retour, après. On vous revient.
Alors, maintenant, cette semaine, on ne parlera pas de politique. Votez du bon bord. Alors, si on revient 100 ans auparavant, tous les gouvernements qu'on a eus, est-ce qu'ils étaient si bons que ça?
C'est ça.
Voter du bon bord? Maintenant, où acheter vos appareils électroniques d'après la revue Protégez-vous? Je trouve ça extrêmement intéressant. Une même paire d'écouteurs peut coûter 99,99 $, on va dire 100 $, ou 220,24 $ selon l'endroit où vous l'achetez. Alors, on va consulter le palmarès des meilleurs magasins et sites Internet pour savoir où aller. Et c'est Clémence Lamarche qui a écrit, chargée de projet, et Rémi Leroux, journaliste, qui ont écrit cet article-là. Tablettes, écouteurs, haut-parleurs, appareils photo, téléviseurs, c'est choquant de payer un produit 750 $ dans un magasin quand 2 portes ou 2 clics plus loin, vous l'auriez eu à 400 $. C'est tout aussi irritant d'aller dans une boutique où aucun vendeur n'est disponible et où retourner la marchandise représente une véritable épreuve. Et que dire de la navigation parfois loin d'être facile sur certains sites Internet et des délais de livraison qui s'allongent. Alors, on était curieux de savoir quel commerce, autant virtuel que ceux ayant pignon sur rue, allie efficacité et rapidité du service à la clientèle, prix honnête, retour aisé des produits. Et pour y arriver, on a sondé les membres de la communauté Data Conso sur leur perception des prix et du service à la clientèle de leur magasin préféré. Et au total, 1672 personnes se sont exprimées sur le sujet, ce qui donne une bonne idée des endroits les plus fréquentables pour obtenir satisfaction. Mais comment savoir où se cachent vraiment les meilleurs prix? Alors, comme nous avons plus d'un tour dans notre sac, nous nous sommes replongés dans nos études de marché les 2 dernières années et avons constitué, à partir de nos précieuses données, un palmarès des magasins et sites Internet qui offrent variété et bon prix dans 5 catégories de produits techno, tablettes, écouteurs, haut-parleurs, appareils, photos et téléviseurs. Et le portrait général de ce dossier montre que certaines enseignes, et je ne vous dirai pas lesquelles tout de suite, alors qu'elles n'offrent pas toujours le prix les plus intéressants ou la plus grande diversité de produits. Par exemple, parmi les grandes surfaces, je ne vous dirai pas laquelle qui arrive en tête premier, et ce qui est bien qu'elles disposent d'un stock très limité de produits électroniques. Autre constat, aucun magasin ne peut se vanter de vendre moins cher que les autres dans toutes les catégories de produits, même pas Amazon, qui est pourtant réputé pour ses prix très compétitifs. Une seule façon d'épargner, comparer, comparer et comparer. Ça va dans la même chose pour les assurances voyage. OK? Alors, aimeriez-vous savoir qui est au sommet, qui arrive en tête de tous les magasins, Apple, Ozo, Central Fry, La Source, Costco, Tanguay, Bureau en gros, Walmart, Best Buy, Ebro et Martineau? Eh bien, parmi tous ces magasins, dans les magasins spécialisés, c'est Apple.
Est-ce que vous allez avoir une commission?
Et puis, non, c'est pour tout le monde, moi, que je dis ça, là. Et dans les magasins à grande surface, alors, est-ce que c'est Costco, Tanguay, Bureau en gros, Walmart, Best Buy, Ebro et Martineau? Lequel de ces magasins?
Costco.
Oui, et on dit Costco, et vous dites? Bon, alors, vous dites rien, eh bien, c'est Costco. Voilà. Et vous avez gagné un premier prix, c'est merveilleux.
Bon, alors moi, je vais vous amener dans un endroit un peu plus feutré que dans les magasins du temps des fêtes, au Vatican. Une Québécoise dans les coulisses du Vatican. C'est dans son édition du Selection de Reader's Digest du mois de décembre que Hélène Debilly a rencontré la psychologue Delphine Collin-Vézina. Et dans son texte, la journaliste écrit « Delphine Collin-Vézina, 42 ans, psychologue donc, enseigne à l'École de service social de l'Université McGill, est l'un des grands chercheurs à travers le monde à se pencher sur les agressions sexuelles auprès des enfants. Ses travaux portent essentiellement sur l'aide aux victimes et sur les barrières psychologiques qui empêchent celles-ci de dénoncer les abus. En 2012, l'universitaire a été recruté par le Centre de protection de l'enfant de l'Université pontificale grégorienne de Rome pour siéger avec 4 autres experts au Conseil consultatif scientifique, chargé de développer un programme de sensibilisation à la question des abus sexuels envers les enfants dans les communautés catholiques. Depuis 3 ans, elle donne aussi un cours via Skype aux étudiants inscrits à ce programme. Nous avons formé des centaines de « sentinelles », entre guillemets, en provenance de tous les continents. Si Rome a fait appel à cette Québécoise laïque, incroyante de surcroît, c'est essentiellement en raison de son expertise dans la protection des enfants. Jusqu'à présent, explique-t-elle, l'Église s'intéressait prioritairement aux abuseurs membres du clergé. Les autorités souhaitent maintenant se préoccuper des victimes. Consciente de vivre des moments historiques, la chercheuse ne crie pas victoire pour autant. Que le pape reconnaisse qu'un problème de pédophilie existe au sein de l'Église, c'est un pas dans la bonne direction, et que des discussions à ce sujet aient lieu dans une organisation aussi fermée et masculine que l'Église reste de bon augure. Mais j'espère que le Vatican va aller au-delà des bonnes intentions et entamer de véritables réformes. À court terme, elle souhaiterait que l'Église mette fin à la culture du silence, si néfaste pour les victimes. Face aux abuseurs, l'Église s'est longtemps contentée de détourner les yeux. On en a eu une preuve supplémentaire lorsque le prêtre pédophile québécois Paul-André Harvey s'est ouvert dans une confession avant de mourir en mai dernier, de 1965 à 1985. L'abbé Harvey a avoué avoir agressé 39 enfants au Saguenay. Alors qu'il purgeait une peine de prison de 6 ans pour ses actes, le prêtre a signé un témoignage dans lequel il blâme ses supérieurs pour l'avoir laissé faire et déménager son problème ailleurs. Il a été déménagé à 12 reprises. Parmi ses victimes, Suzanne Tremblay s'est souvenue de la difficulté qu'elle a eue à se faire entendre durant toutes ces années. On ne la croyait tout simplement pas. Le rôle de la recherche universitaire, insiste Mme Collin-Vézina, est justement de donner de la crédibilité aux victimes. Il y a 50 ans, la médecine banalisait l'inceste en arguant qu'il était très rare et qu'il entraînait très peu de séquelles. C'est la recherche qui a permis de renverser cette croyance. Il y a plusieurs cas qu'elle mentionne, des cas qui ont été faits des médias, et je voudrais vous parler, avant de conclure, de l'affaire de Guy Cloutier. Ainsi, dit-elle, l'affaire Guy Cloutier a marqué un tournant dans la prise de conscience des Québécois en 2005. Impresario et producteur, l'homme a été condamné à 42 mois de prison pour l'agression sexuelle de la chanteuse Nathalie Simard, alors que celle-ci était enfant. Le grand mérite de Nathalie Simard, précise Delphine Collin-Vizina, c'est d'être parvenue à enregistrer la confession de son agresseur. Sans cela, personne ne l'aurait jamais cru. Sa réputation n'aurait pas suffi pour lui donner la crédibilité nécessaire. Elle dit « ça, je le sais ». C'est la psychologue.
Je ne me rappelais pas qu'elle l'avait enregistré.
Moi non plus. Alors, chercheuse engagée, Delphine Collin-Vizina croit dans la lutte contre les injustices et pour l'équité sociale. Elle s'indigne contre tous les systèmes, incluant l'Église, qui ont pendant longtemps nié les besoins des victimes. Mais cela n'a pas empêché cette Québécoise d'être émue lors de sa rencontre avec François le Pape. Je me suis rendu compte que, en lui serrant la main, une photo à cet égard dans le texte, malgré mon enfance laïque, cette rencontre m'a permis de comprendre que la religion catholique fait quand même partie de mes racines. C'est un texte de Hélène de Billy dans la sélection du Reader's Digest du mois de
c'est
décembre.
C'est plus feutré, mais assez délicat.
Oui.
Elle est entrée dans l'église, la cigarette à la main, les seins nus sous la chemise, et l'air de s'en foutre bien. Elle est entrée dans l'église, la cigarette à la main, les seins nus sous la chemise, et l'air de s'en foutre bien. Elle a regardé l'église avec ses yeux délavés, en caressant sa chemise pour s'aider à mieux rêver. Elle a jeté sa cigarette parce qu'elle lui brûlait la main, sans même baisser la tête. C'est son billet qui l'a éteinte, mais qui donc était-elle parmi ses statues, ses saints? C'est elle qui avait des ailes, elle qui parlait latin. Allez donc dire à vos papes, à vos saintes sacristies, j'ai vu une fille en savate qui ressemblait à Marie. Elle est entrée dans l'église, la cigarette à la main, avec dessous sa chemise un cœur beau comme un chagrin. Elle cherchait le lieu où mettre sa douleur qui faisait froid. Elle cherchait le lieu où naître pour une seconde fois. Elle est entrée dans l'église, la cigarette à la main, les seins nus sous la chemise et l'air de s'en foutre bien. Elle est entrée dans l'église, la cigarette à la main.
On entendre Serge Lama, la fille dans l'église.
Merci. Je poursuis. Vous savez, je vous avais demandé, j'avais décidé que je vous faisais faire le tour du Québec aux auditeurs.
Oui, oui.
Donc, cette semaine, je débute avec Lanaudière, mais je veux juste vous dire qu'il y a un Michel qui nous a demandé, donc la semaine prochaine, il aimerait que je parle de la région des Cantons de l'Est.
Quelle belle région.
Alors, je pigerai dans mon livre du Tour du Québec pour vous parler des Cantons de l'Est la semaine prochaine. Mais je débute cette semaine avec Lanaudière, qui est un peu ma région avec laquelle je suis en amour. C'est la fromagerie La Suisse Normande à Saint-Roch-Ouest, et ses mots sont de Amélie Tenland. Fabienne est suisse et Frédéric est normand, voilà pour l'origine du nom de leur fromagerie, fondée en 1995. Ils fabriquent aujourd'hui, avec trois de leurs enfants, plus d'une dizaine de fromages avec le lait de leur chèvre et celui du troupeau de vaches d'un voisin. Au départ, rien n'indiquait pourtant que le couple allait se lancer dans cette aventure familiale. Infirmière en Suisse, Fabienne y a fait la connaissance de Frédéric, qui venait de trouver un travail sur la ferme laitière de son grand-père. Un jour, le père de Fabienne leur a offert d'aller s'occuper d'une terre qu'il possédait au Québec, sur la rive sud. En 1985, le couple Guitel débarquait au Québec et 3 ans plus tard, il achetait sa propre terre à Saint-Roch-Ouest. Au début, l'idée de fabriquer du fromage n'était même pas sur le radar. Ils ont eu des cochons ainsi que des vaches laitières, puis des chèvres. Une fromagerie devait voir le jour dans un village voisin. On avait prévu de leur vendre le lait des 187 chèvres que l'on possédait à l'époque, mais le projet a avorté. On est resté avec notre lait sur les bras. Un hiver, il a vu qu'un cours sur la fabrication de fromages artisanaux était offert à Joliette. Il a décidé de s'inscrire et... la piqûre. « On se fait notre fromage à nous », se rappelle-t-il avoir dit à Fabienne. Ce cours, c'était vraiment le BABA de la fabrication. Après, on y est allé d'essais et erreurs. On a appris à les faire les uns après les autres, explique le fromager. Ils se sont notamment inspirés des fromages suisses comme la Tomme vaudoise, dont le Pizzi, l'une de leurs premières fabrications, est le pendant québécois. Tous les fromages de chèvres de la fromagerie La Suisse Normande sont fabriqués avec le lait de son troupeau de 300 chèvres, dont environ 200 en lactation. Ce qui nous a toujours intéressés, c'est faire des fromages fermiers. C'est plus de gestion et de travail, mais ça nous permet d'avoir le contrôle sur la qualité du lait et des soins aux animaux. On cultive nos champs, on fait notre foin et notre grain, on s'occupe des animaux. Quant au lait de vache, du Petit Normand et du Frédo, il provient de la ferme d'un voisin, la ferme La Chigan. On va faire ses foins, on sait que ce que les animaux mangent, on a aussi un contrôle sur la qualité. Les fromages, les foins, le grain, les animaux et la fabrication de fromage, beaucoup de travail, qui depuis quelques années n'est plus assuré par le couple seul. De ses 5 enfants, Thibault a été le premier à officiellement intégrer l'entreprise familiale. Il est à la tête de tout ce qui touche la ferme et la terre. 2 de ses sœurs, Magali et Bénédicte, travaillent quant à elles à la fromagerie. En comptant les employés, 10 de personnes travaillent à la Suisse normande. Aujourd'hui, c'est Bénédicte et son équipe qui assurent principalement la production. Arrivée quelque temps plus tard, sa sœur Magali s'occupe davantage de gestion. Sa mère, de qui Bénédicte a appris en grande partie la fabrication du fromage, est pour sa part à la commercialisation et Thibault à la ferme, tandis que Frédéric est devenu l'homme à tout faire. Ainsi, le transfert d'entreprise se fait doucement et se passe bien, ce qui réjouit Bénédicte. Ça se fait avec beaucoup de respect. Tout le monde est à la place qu'il voulait être et on se complète tous. C'est plus qu'un travail pour nous, c'est un mode de vie. On apprend à comprendre les valeurs de nos parents tout en les remettant au goût du jour. Bénédicte vous invite par ailleurs à faire un arrêt au restaurant Saint-Ours, non loin de la fromagerie, à Saint-Roch-de-la-Chigan. Ouvert depuis quelques années, le Saint-Ours est également fervent de produits locaux et du terroir. Vous pourriez même y déguster une assiette de fromage, évidemment de la fromagerie, la Suisse normande. Alors, la fromagerie, elle est située à Saint-Roch. C'est le 985 rang de la Rivière-Nord. C'est sur la route 339, Saint-Roch-Ouest, le téléphone 450-588-6503 pour ceux qui veulent aller les visiter. Et le courriel est le site web lasuissenormande.com. Voilà, c'était un article dans le Tour du Québec, signé Amélie Tenlan.
Alors moi, je vous présente le deuxième texte d'Isabelle Paré qui a paru dans le Devoir le 17 novembre. Les GES dans l'assiette, un pas plus facile à franchir que d'autres. Dans le bilan carbone des Québécois, l'alimentation pèse encore lourd, bien qu'une partie de cet impact soit difficile à chiffrer en raison de la quantité importante de produits fabriqués et importés depuis l'étranger. Des études américaines évaluent à ce qui atterrit dans nos assiettes contribue à 20% de l'empreinte totale d'une personne. On sait aujourd'hui que la viande a un impact majeur sur le réchauffement climatique, puisqu'environ 75% des terres cultivées dans le monde sont mobilisées pour nourrir les bestiaux qui finiront en brochettes et en côtelettes. Des bestiaux dont le système digestif a la malencontreuse particularité d'émettre du méthane, un gaz 25 fois plus dommageable pour le climat que le CO2. Dans ce lot, le bœuf compte pour la moitié des GES associés à l'élevage des animaux. Mais combien de personnes sont prêtes à délaisser le corot d'agneau et le rôti de bœuf en voyage en avion? C'est une blague. Beaucoup, qu'on ne le croit, semble-t-il, détrônés par le poulet, l'attrait pour la viande rouge est en nette baisse au Canada. de près de 29 kg par personne par année en 1980, la quantité de bœuf consommée a littéralement dégringolé, atteignant 17 kg en 2017, selon Statistique Canada. Moins brutal, le recul pour le porc a fait passer la consommation annuelle par habitant de 25 à 16 kg, du veau de 1 kg à 800 g. En contrepartie, l'élan pour les volailles a fait aujourd'hui la protéine la plus consommée avec près de 20 g par personne. Au point où plusieurs estiment que c'est dans l'assiette que les changements au mode de vie nécessaires pour limiter les émissions GES seront les plus digestes pour les citoyens. En alimentation, on sent que c'est de plus en plus accessible. Pour la plupart des gens, c'est assez concret et intuitif. Si on consomme moins, on gaspille moins. L'alimentation est déjà un lieu de consensus où l'on voit les gains individuels et collectifs à mieux manger avec des produits locaux, estime Colin Thorpe, directrice des programmes éducatifs chez Équiterre. L'alimentation est la meilleure occasion de changement car les gens s'intéressent déjà à leur santé à la cuisine. On est dans une époque foodie. Manger moins de bœuf, c'est presque devenu normal. Et manger du poulet, qui a environ la même empreinte que le maïs, c'est déjà très bien, affirme Catherine Potvin, experte en changement climatique. Plus encore, dit-elle, l'offre des produits locaux s'est démultipliée ces dernières années. Mais selon certains organismes environnementaux qui travaillent à changer les perceptions et qui promeuvent l'importance d'adopter des gestes plus verts, il faut sortir de la logique comptable des GES, tant dans l'alimentation que dans d'autres domaines. On se fait happer par la comptabilité des GES et ça mêle tout le monde. Si on se limite à cette approche, on rate la coche et on perd beaucoup de temps dans de faux débats. L'expérience nous montre qu'inciter les gens à poser des gestes simples, plus intuitifs, est souvent beaucoup plus efficace et mobilisant, estime Colin Thorpe. À l'heure actuelle, ajoute-t-elle, l'urgence climatique mène à canaliser toute l'attention et les discours gouvernementaux autour du calcul des GES, reléguant à la marge l'importance de préserver la biodiversité et l'intégrité des milieux naturels qui seront essentiels pour s'adapter au changement climatique. Les chiffres ne sont que de froides statistiques. Ce que l'histoire nous a appris, c'est que les gens ont le goût d'agir quand leur émotion entre en jeu. Pour changer des habitudes, il faut qu'un geste résonne. Et ça interpelle les gens là où ça compte pour eux, ne serait-ce que parce que ça touche leur santé, leur qualité de vie, leurs enfants. En ce moment, les gens se sentent prêts à agir, ajoute Mme Thorpe. Et pour vous donner une petite idée rapidement, le nombre de kilogrammes de CO2 pour produire 1 kg d'aliments, le bœuf, 27 kg, le poulet dont on parlait tantôt, 7 kg, et les légumes et les fruits, moins de 2 kg.
Voilà. Non, donc manger du bœuf pendant un voyage en avion, c'est pas tellement winner. Yes.
La formation Mes aïeux et la pièce Le déni de l'évidence.
Une brève.
Ouais, moi, je peux pas compter jusqu'à là. 1,270,000,000, c'est le nombre de faux comptes dont Facebook a bloqué la création sur son site en 5 mois seulement, d'octobre 2017 à mars 2018. Le réseau social empêche l'ouverture de profils douteux en utilisant des technologies comme la reconnaissance d'images, l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle. 1,270,000,000.
Merci. On vous revient après la pause. Matin. Une bonne nouvelle.
Oui, il y en a des bonnes, mais fais attention, faut pas se réjouir trop vite. Là.
Allez, Roger.
Non, allons-y mollo. Bonne nouvelle pour la planète Terre par Damian Carrington. C'est dans le Reader's Digest, j'en ai parlé la semaine dernière. Des experts croient que ce qui se fait actuellement pour lutter contre les changements climatiques pourrait réduire les dommages qui surviendront probablement, fort probablement. Alors que d'autres, comme Nicholas Stern de la London School of Economics, croient que les bonnes nouvelles dont on parle constituent des pas dans la bonne direction. Mais ce n'est qu'un début timide et il compte beaucoup sur la conférence qui aura lieu en Pologne, qui a commencé aujourd'hui en Pologne, sur la question du réchauffement climatique. La semaine dernière, nous avions lu les bonnes nouvelles suivantes qui sont soulignées dans le texte. La lutte contre le méthane, c'est le bétail, ça. D'ici 30 ans, l'élevage du bétail pour la viande serait remplacé par la viande végétale ou la viande produite en laboratoire. Bonne nouvelle. Les coûts de production des panneaux solaires ont été réduits de 90 % en 10 ans. Bonne nouvelle pour l'énergie renouvelable. Le charbon est mort ou agonisant comme source d'énergie, remplacé par le solaire et l'éolien. L'implantation des voitures électriques progresse plus rapidement, notamment en Chine, qui est en train de prendre les devants sur le réchauffement climatique en faisant sur les éoliennes et les voitures électriques. Aujourd'hui, je poursuis la lecture du texte en commençant justement par les batteries qui alimente les véhicules électriques. Le changement a là aussi fait chuter de 74 % en 6 ans le prix des batteries au lithium-ion. L'Agence internationale pour les énergies renouvelables prévoit qu'il baissera encore de 50 à 66 % d'ici 2030. La capacité de stockage d'énergie croîtra de manière spectaculaire grâce aux réseaux électriques numériques de plus en plus élaborés et efficaces. La crainte que la production de lithium-ion, la technologie la plus répandue aujourd'hui, ne suive pas la demande, est exagérée. selon un monsieur Liebrich, qui lui est le fondateur de Bloomberg New Energy Finance. Autre bonne nouvelle, les mégawatts versus les négawatts. Il est aussi important de réduire la demande en stimulant l'efficacité énergétique que de rendre la production d'énergie plus écologique. C'est une évidence en politique climatique, mais elle est moins simple à appliquer qu'il n'y paraît. Elle engage la participation de millions de personnes, comme l'a souligné tout à l'heure notre ami Jean-Charles. Les progrès sont tangibles et l'efficacité énergétique s'est améliorée dans l'habitat, le transport et l'industrie. L'application de nouvelles normes sur les appareils électroménagers les rend moins énergivores et a eu un effet plus important que prévu. Encore une fois, la poursuite des progrès est essentielle. Il faut vraiment encourager l'efficacité énergétique, affirme Kevin Anderson, professeur à l'Université de Manchester. Nous pourrions réduire de 40 % la consommation européenne d'énergie d'ici 10 à 15 ans si les appareils les plus efficaces, aujourd'hui sur le marché devenaient la nouvelle norme. Dans les pays chauds, évidemment, il faut de l'isolation. On attire notre attention sur la question. Il est criminel que la rénovation de bâtiments n'obéisse pas à des standards d'isolation très élevés, poursuit Michael Liebrich. Le problème est mondial. Par ailleurs, un autre problème très important, c'est la déforestation. Il faut accélérer le reboisement. La destruction des forêts pour l'élevage, l'agriculture ou le bois est responsable de 15 % des émissions de gaz à effet de serre. C'est la plus importante tendance à inverser. À l'échelle planétaire, la perte annuelle d'arbres a doublé depuis 2000. C'est d'autant plus inquiétant qu'arrêter la déforestation et planter des arbres est l'un des moyens les plus rapides de réduire les émissions de carbone. Mais ce n'est pourtant pas suffisamment encouragé, souligne Michael Wolosen de Forest Climate Analytics à Washington, aux États-Unis. Les forêts souffrent d'un grave sous-financement. Pas plus de 2 % du budget mondial pour le climat y sont consacrés. Les 3 milliards de dollars alloués au reboisement dans les pays qui en ont le plus cruellement besoin depuis 2010 sont ridicules comparativement au financement des secteurs qui encouragent la déforestation. Les gouvernements du Brésil et de l'Indonésie ont investi à eux seuls 360 milliards de dollars en subventions agricoles sur la même période et pour 4 produits de consommation de base, l'huile de palme, le soja et le bœuf. En comparaison avec les bonnes nouvelles, ici, en 2 décennies, 12 milliards de tonnes de CO2 ont été absorbées par la plantation d'arbres en Chine, en Inde et en Corée du Sud. C'est la crainte des inondations et des difficultés d'approvisionnement alimentaire qui a motivé cette reforestation. Encore une fois, la Chine est à l'avant-garde.
Ils n'ont pas le choix de toute façon.
Non.
Roger, Serge, tu veux nous amener magasiner?
Ah ben oui, si ça vous tente de me suivre avec votre sacoche. Alors, la qualité du service à la clientèle, ça vous intéresse après avoir su que bon, Costco et Apple étaient parmi les meilleurs? Hein?
C'est ce qui nous distingue des achats.
Aucun des commerces ou sites évalués n'a réussi à avoir un score parfait à ce chapitre. Les magasins spécialisés Apple, Ozo et Centrify obtiennent de meilleures recommandations de la part des répondants au sondage que les grandes surfaces. Ben, la raison, c'est que dans les grandes surfaces, les vendeurs, ben, cherchez-les, hein? Et lorsqu'ils sont là, ils connaissent mal les produits qu'ils vendent. C'est pas compliqué, hein? Alors, par contre, les gens aiment l'expertise des vendeurs des magasins spécialisés. Raymond Robitaille, hein, pour ne nommer que lui, apprécie tout particulièrement le service comme les employés courtois, souriants et qui connaissent leurs produits des boutiques Apple. Même si plusieurs consommateurs déplorent le temps d'attente au Genius Bar, le service d'assistance et de réparation en boutique, cela n'affecte pas la note globale accordée à la qualité du service à la clientèle du géant. Et du côté des grandes surfaces, Tanguay devance Costco et Bureau en gros. Et à l'opposé, Best Buy, Bureau et Martineau et Walmart ne s'illustrent pas par la qualité de leur service à la clientèle.
Ont-ils des vendeurs?
Et se retrouvent en queue de peloton. Walmart obtient la moins bonne appréciation en ce qui concerne la connaissance des produits et services offerts. Ça. Et quant à Bro et Martineau, le service à la clientèle n'est tout simplement pas adéquat, selon les répondants au sondage de satisfaction, qui évoque notamment la vente sous pression et un service après-vente médiocre. Et la garantie prolongée. Oh, mon Dieu Seigneur. Best Buy. Alors là, Best Buy essuie plusieurs critiques, notamment à propos de ses vendeurs, qui cherchent à refiler aux clients des garanties prolongées. Jannick Vallière, résident de Sainte-Ursule, je ne sais pas si vous la connaissez, en Mauricie, oui, et qui fréquente le Best Buy de Trois-Rivières, a eu la nette impression que le vendeur semblait plus intéressé à vendre la garantie que le produit.
OK. C'est toujours ça.
Même constat pour Louise Cuillerier, qui magasine dans un Best Buy de La Salle et estime que les vendeurs mettent une très grosse pression pour acheter une garantie prolongée, même si on explique qu'on n'a pas besoin de plus que la garantie légale au Québec. Et rappelons qu'un vendeur doit vous informer de l'existence de la garantie légale qui, au Québec, s'applique automatiquement à l'achat d'un bien. Elle stipule qu'un bien doit pouvoir servir à l'usage auquel il est normalement destiné pendant une durée raisonnable. Et cette garantie suffit largement à vous couvrir en cas de pépin. Est-ce que c'est clair, là?
Tout est une question d'interprétation, quand même.
Oui, oui, oui. Et le processus des retours. Oh, mon Dieu Seigneur. Louise Guilbeault est fâchée. Non. Oh. Elle respire à Paul, dort à Paul et mangerait à Paul. Ben, des pommes, c'est bon à endormir. Si c'était possible, ne parvient pas à faire échanger son iPad Air 2.
Son prénom, c'est pas Eve.
Alors, son iPad Air 2 acheté en mars 2017, selon elle, a des bugs. Alors, voyez-vous, a pogné un citron.
Oui, oui,
c'est un citron. Chez Apple.
Oui, c'est ça.
Oh, bon, c'est bon comme jeu.
Hein?
Ça se mange quasiment.
Ça réveille un lundi matin.
Ah, c'est bon. Alors, il n'y a rien de parfait finalement, mais allons-y tranquillement. Costco et Apple sortent gagnants pour le retour de la marchandise,
mais
quand même.
Il y a au moins un service à la clientèle, contrairement aux achats sur le web. Il y a tout de même un léger service à la clientèle.
En ligne, les politiques de retour n'est pas toujours facile à faire appliquer.
Oui, voilà.
Ça, c'est sûr.
Merci beaucoup.
Petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyril. La coop, le casse-bord, la caisse pop, le croque-mort. Et le magasin général, là, quand j'y retourne, ça me faisait mal. Il est tombé une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. L'autre jour, j'ai amené ma bien-aimée pour y montrer où c'est que j'étais né. Aussitôt arrivé, me blanc en beau joie vert. Ça avait l'air de Val-Jalbert. Quand j'y retourne, ça me faisait mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat.
Ouais!
Une bonne journée, je y retourne avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Sur la grande rue, c'était plus vivant que ça. Des petits culs en bicycle, des cousines en visite. C'était noir de monde comme en Afrique. Quand j'y retourne, c'est pathétique. Ça va tomber mal, sa rue principale. Depuis qu'ils ont construit le McDonald's.
Voici Patrick Esposito du Napoli.
Ils sont plus rien que 3000, puis la rue principale est devenue bien tranquille. L'épicerie est partie, le cinéma aussi, et le motel est démoli. Ah, quand j'y retourne, ça me fait mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat.
Ouais!
Une bonne journée.
aux heures. Puis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Wow, 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 wow. Dans ma petite ville, on était juste 4000. Puis la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyril. La coop, le casse-mort, la caisse-pop, le croque-mort. Et la magasin général, là, quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale. Depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat.
Les colocs nous ont amenés au centre d'achat via la rue principale sur Canal M.
Jean-Charles.
Oui, voici pour mon deuxième texte. J'espère que ça va intéresser les gens. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. C'est un texte de Mathieu Perrault à La Presse Plus le 25 novembre. Le secret des cancers des animaux. Certaines espèces animales sont épargnées par le cancer. Et c'est pour cette raison que les oncologues s'intéressent de près à certains animaux de très grande taille ou qui vivent plus longtemps que des espèces similaires. Ce qu'ils ont appris les ont surpris. C'est simple. Les mathématiques des tumeurs sont simples. Plus il y a de cellules, plus elles se divisent, plus le risque de mutation cancérigène augmente. Certaines espèces animales font mentir l'équation. Au premier rang, l'éléphant. Joshua Schiffman de l'Université de l'Utah est l'un des chercheurs de premier plan en oncologie comparée. Sa découverte sur l'éléphant a confirmé l'importance de ses recherches pour mieux comprendre le cancer et trouver de nouveaux médicaments pour le contrer. Le bébé éléphant pèse 100 kilos quand il naît. Après une gestation de 22 mois, dit le docteur Schiffman. Il prend ensuite 1,5 kg par jour pendant 10 ans avant d'arriver à l'âge de la reproduction avec un poids de 5 tonnes. Avec toute cette division cellulaire, si l'éléphant n'était pas protégé du cancer, il mourrait avant de pouvoir se reproduire. Comme il fait 100 fois la masse d'un homme, il a 100 fois plus de cellules. De plus, il vit très vieux pour atteindre l'âge de 70 ans. Et pourtant, seulement 5 % des éléphants meurent en étant porteurs de tumeurs contre 25 % des êtres humains. Nous avons découvert qu'au lieu d'avoir, comme nous, deux copies du gène P53 qui élimine les cellules cancéreuses, l'éléphant en a 40 copies.
Ah!
Soit deux fois plus. L'oncologue de l'Utah précise qu'il fait ses études sur du sang d'éléphants prélevés sur des soins vétérinaires. Le paradoxe de Peto. Richard Peto est un statisticien médical britannique qui a beaucoup travaillé sur le concept de méta-analyse, approche consistant à jumeler des données de nombreuses études médicales et pharmaceutiques selon des règles précises. Il a aussi travaillé sur les facteurs de risque de cancer, notamment sur le tabagisme. C'est lui qui a énoncé le paradoxe de Peto. Normalement, les espèces animales de grande taille devraient avoir plus de cancer parce qu'ils ont plus de divisions cellulaires, mais ce n'est pas le cas parce que les grands animaux ont développé des mécanismes anticancéreux supplémentaires. Récemment, des chercheurs ont même démontré que chez l'humain, donc au sein d'une même espèce, les individus de grande taille ont un risque légèrement accru de cancer. Donc, l'étude des cancers chez les animaux permet de mieux comprendre les mécanismes cellulaires à l'œuvre, dit Amy Boddy, anthropologue médicale de l'Université de Californie à Santa Barbara. En gros, on peut mieux gérer les gènes pour limiter le risque des mutations, de mutations apparaissent et éliminer les tumeurs, les anomalies quand elles apparaissent. Mme Baudet est engagée dans un vaste processus de recension et de classification de ces mécanismes, ainsi que sur leur évolution sur les différents embranchements de l'arbre généalogique animal. Outre les mammifères, elle étudie aussi les os et les reptiles. À part la baleine, d'autres espèces sont épargnées. Je vous en donne un exemple, la baleine boréale. Plusieurs équipes étudient la baleine boréale qui est à la fois énorme et dotée d'une longévité phénoménale. On parle de 200 ans, dit Vera Gorbunova de l'Université de Rochester. Sa capacité à résister au cancer est unique dans tout le monde animal. On n'a aucune idée de ses mécanismes en cause. L'oncologie baleinière est étudiée avec des bouillons de cellules de ce cétacé. Et un animal... Je termine avec un animal, le castor. Saviez-vous que le castor, c'est un autre animal qui a peu de tumeurs? Pour un rongeur, il vit très longtemps, il a une taille assez grande et pourtant, il a rarement le cancer. Sa longévité documentée maximale en captivité est de 24 ans. Mais certains rapportent que des castors auraient vécu jusqu'à même 50 ans. Que voilà. Ah.
Puis, avez-vous cheminé dans votre tête? Est-ce que vous avez voté du bon bord?
Non. Ah, c'était la question.
Comme c'est s'il y avait un bon bord.
Oui, voilà. C'est ce que nous dit Michaël Bergeron dans sa chronique dans la revue Voir.
Hey,
le bon vote. Depuis le 1er octobre, cette expression revient sous différentes formes et sous-entend que certaines personnes ont gagné leurs élections et d'autres les ont perdues. Bon. Par exemple, je lisais le commentaire d'un élu de la Côte-Nord qui se plaignait que sa circonscription n'avait pas encore une fois, voter du bon bord, c'est-à-dire du côté du parti qui formera le gouvernement. Même Sébastien Beauvais, le journaliste de Radio-Canada, a lâché quelquefois cette expression en parlant d'une circonscription habituellement baromètre, c'est-à-dire qu'au gré des changements de gouvernement, là où le député élu est du parti forme le gouvernement. Mais pas cette année, car cette circonscription a voté du mauvais bord. Il me semble même l'avoir entendu dire cette année, la circonscription s'était trompée. Mais qu'est-ce que voter du bon bord? Comment peut-on se tromper en votant? Il ne faut pas oublier que notre système parlementaire a cette particularité de permettre à des gens de gagner, même si la majorité des gens n'ont pas voté pour eux. Normalement, nous voterions pour nos convictions, en espérant qu'une majorité de gens partagent nos convictions, permettant alors à un parti qui partage nos valeurs de former le gouvernement. À partir du moment où nous votons pour nos propres valeurs, perdons-nous vraiment si le parti que nous avons voulu encourager ne prend pas le pouvoir? Traitez-moi d'idéaliste si vous voulez, surtout que je ne vois pas ça comme une insulte, mais sacrifier ses convictions juste pour accéder au pouvoir me semble bien plus loser que de ne pas avoir le pouvoir. Entre être au pouvoir avec des gens avec qui je ne partage pas les idées ou être dans l'opposition, à l'Assemblée ou dans la rue, avec des gens qui partagent mes valeurs, le choix me semble facile. Pour moi, c'est être avec ceux et celles qui partagent mes idées. Le pouvoir vient avec une si grande responsabilité, avec une si grosse structure, avec des si grands devoirs qu'il est loin d'être un lieu réel de contrôle. Tu peux certes prendre des décisions, tu as beaucoup d'influence, mais tu vas vite te rendre compte que tes décisions ont des impacts sur bien des gens et ça met de la pression. Plus encore, ce « pouvoir » entre guillemets ne vient pas du ciel et ce n'est pas un cadeau. Il est prêté pour un moment déterminé. On ne gagne pas le pouvoir, on se le voit confier. Le pouvoir n'appartient à aucun parti, ni à aucun élu, ministre ou premier ministre, ni à la reine. Malgré tout le cynisme que vous avez peut-être pour le système parlementaire ou vos critiques pour ses très nombreux défauts, et malgré le pouvoir monarchique théorique, malgré toute l'influence des multinationales et des lobbyings économiques, malgré la rigidité du système et le peu d'ouverture à la divergence, malgré le poids de la norme, ultimement, il demeure que le pouvoir appartient au peuple. Si les gens, pour une raison inimaginable, aujourd'hui se tannent de Facebook, ce géant du web va tomber. Si la majorité de la population investissait réellement les instances démocratiques qui existent en dehors des élections, plusieurs décisions gouvernementales seraient différentes. Si la majorité de la population arrêtait d'acheter des voitures, le gouvernement et les promoteurs immobiliers changeraient la façon de concevoir l'urbanisme. Évidemment que la finance et les banques ont plus de tribunes et d'influence que les organismes communautaires. Ceux et celles qui luttent pour un contrôle des armes à feu n'ont vraiment pas les mêmes moyens que les entreprises qui font des millions. Le débat n'est pas équilibré et ne se fait pas avec les mêmes outils, avec les mêmes tribunes, avec les mêmes forces. C'est dur de se tenir debout souvent dans cette dynamique. La pente est parfois raide, le vent est parfois vigoureux, la résistance n'est pas facile. Néanmoins, des changements sociaux peuvent s'imposer au pouvoir lorsqu'une bonne partie de la population adopte une idée, une valeur, ou du moins ne trouve pas ça niaiseux. Le gouvernement n'est pas une finalité, il est un outil, parmi d'autres, un gros outil, mais pas un seul levier. Voter pour le bon bord, selon moi, ne peut se faire qu'en votant pour ses convictions, même si ça peut vouloir dire de ne pas aller voter. Voilà, c'était Michaël Bergeron dans la revue Voir, le bon vote.
attention, répondez comme il faut.
Ma mère s'appelle maman, mon père appelle pas souvent, y'a peut-être pas le temps.
Coché oui, coché non, coché oui, coché non. Vous voulez pas le savoir, je peux pas classer mes émotions en petite pile de oui non. Mais puisque vous me le demandez, voici pour vos dossiers. J'espère seulement qu'un jour la guerre ne sera qu'une cause de questionnaire. Récemment, avez-vous l'intention d'être vieux longtemps? Saurez-vous comment vous occuper? Savez-vous combien ça va nous coûter?
Je sais pas, mais dernièrement, j'enterrai mes parents. J'espère vivre aussi vieux, ce sera coûteux.
J'aurais aimé vous conter l'histoire des années pâles, des années noires. L'amour, la haine qu'on a connu, que j'ai perdu. Grâce à vos fiches, oui, vous savez, quand les gens meurent, où ils sont nés. Et d'un crayon, vous faites une croix. Leur vie vous passe entre les
retour en 1984 avec M. Paul Pichet, et vous aurez sans doute reconnu ou deviné le titre de la pièce, Coché oui, coché non.
Voilà, Jean-Charles, une petite brève.
Oui, ben une petite brève. Je termine le texte que j'ai fait tantôt avec un autre animal qui a peu de cancer. Personne ne se veut. L'écureuil.
Ah.
Oui. C'est un autre sujet de prédilection de Vera Gorbunova, et le banal écureuil. Pour sa taille, il vit très vieux, au moins 25 ans en captivité. Compte généralement deux pour la souris. On a déjà découvert des mécanismes surprenants d'élimination des tumeurs chez l'écureuil, précise Mme Gorbunova. Voilà. Quand vous regardez un écureuil, vous le verrez plus de la même façon.
Ah, c'est sûr, c'est sûr.
Pour ma part, des journalistes français aux États-Unis, l'agence France Presse qui lance un balado sur les États-Unis baptisé « Fragments d'Amérique ». L'immersion sonore proposée permet d'entremêler la couverture de l'actualité et les témoignages personnels des correspondants. Dans le deuxième épisode sur les incendies apocalyptiques de Californie, le journaliste Laurent Baquet décrit, par exemple, les effets produits sur lui par la découverte de cadavres. On ne s'habitue jamais, on regarde la réalité en face, dit-il en reprenant la phrase d'un secouriste. Bref, c'est l'actualité avec un supplément d'âme. Ben voilà, c'est ce qui met fin à cette édition du lundi des Voix de service. Merci beaucoup à Serge, à Roger et à Jean-Charles.
Oui, merci, bonne
C'était
semaine.
C'était Diane Pilote au micro et nous vous retrouvons la semaine prochaine.